Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
C'est le rendez-vous jeu numéro 223, le premier épisode de la rentrée. Je suis très heureux de vous retrouver. On va parler du PlayStation VR 2, de Take-Two qui fait des bisous à Zynga, de plein de chiffres, de plein de news, dont l'E3 qui est annulé cette année encore, et tous les jeux du moment et toute l'actu du moment. C'est parti tout de suite. Bonjour à tous et bonne année, j'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous avez été plein de bonheur, que vous avez pu vous détendre, vous relaxer, comme ça n'a pas forcément été mon cas, les vacances avec deux enfants, c'est un peu speed, mais tout va bien puisque l'année recommence, les vacances sont terminées, donc on peut enfin se reposer et on a un programme extrêmement chargé, notamment avec la présence de Escarina. Je ne sais pas pourquoi la présence d'Escarina fait que c'est chargé. Comment ça va, Maïté ? T'es en forme ?
Je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Écoute, j'ai vécu un mois un peu compliqué.
J'ai suivi ça sur Twitter. Les vacances contrariées par le Covid, les tests en permanence, est-ce qu'on va pouvoir partir, est-ce qu'on va pouvoir rentrer, ouais. C'était, ça, on pourrait en faire une série, tu dois vendre des droits à Netflix.
Ah ouais, non, on pourrait en faire un épisode à part entière, mais écoute, nos tests d'hier sont tous les deux négatifs, des vrais négatifs, on a refait un test ce matin au cas où, mais... Il semblerait, je touche du bois, du singe, du ce que tu veux, qu'on puisse bien partir comme prévu.
Je touche du singe ? C'est quoi ça ?
Tu connais pas cette expression ? Bah, tu dis que tu touches du singe et en général, tu touches la personne en face de toi.
Ah, d'accord, ok. Voilà, donc c'est moi qui t'ai fait penser à ça, je comprends très bien.
Voilà, que toutes les personnes sur Twitch continuent de croiser les doigts pour moi, s'il vous plaît, et qu'on puisse bien partir à notre voyage samedi matin. Et donc, j'ai les narines en feu, puisque je n'ai jamais fait autant de tests PCR de ma vie sur une période aussi courte. Et alors, ce qui est génial, c'est quand t'es négatif et que t'es tranquille et que tu te retrouves au milieu de tous les gens malades en train de pousser dans les files d'attente et te dire qu'il faut que tu fasses tes tests parce que t'as pas le choix, mais qu'en même temps, tu vois, la balance risque... bénéfice et très douteuse.
Écoute, mais voilà, négative, tout va bien, j'espère
voilà,
que tu pourras partir.
J'ai eu le Covid, j'ai survécu, tout le monde va bien à la maison, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout le monde va bien et c'est le
très
principal.
Et je suis là bah oui, parce que sinon, tu n'aurais pas pu participer à l'émission et c'est ça qui aurait été la vraie tragédie.
Ah non, mais l'état dans lequel j'étais par contre il y a trois semaines, je pense que j'aurais pas été très bien capable de participer, mais tout va bien aujourd'hui, on peut survivre.
Aubin, est-ce que toi tu as eu le Covid pendant les vacances?
Non, moi je suis passé entre les balles, j'ai eu beaucoup de chance, ma compagne l'a eu, on vit sous le même toit, et j'ai rien eu du tout, donc je m'estime très 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 chanceux.
Ah ouais, ta
donc,
compagne l'a eu et toi tu l'as pas eu, d'accord, très bien.
Je sais pas comment c'est possible.
Je pense que génétiquement parlant, il y a des gens qui sont plus... Il y a des histoires de résus sanguins, enfin... Non mais mon mari aussi est resté négatif pendant deux semaines et il a choisi d'être positif à la fin,
juste
quand il fallait plus l'être.
Bon, écoute,
tu dois avoir des anticorps extrêmement bodybuildés.
Ouais, mais c'est toutes ces années à faire du jeu de combat, tu vois, ça t'a entraîné à passer, entre à éviter les petits jabs, tu vois, tes footsies sont au top niveau. Aubin Grégoire est avec nous, c'est la deuxième fois que t'es dans l'émission, je crois.
Deuxième fois, oui. Je t'avais une fois pour parler de Age of Empires 4.
C'est ça. Et tu es maintenant un créateur de contenu indépendant, un Twitcher.
Tout à fait. Un influenceur, si j'ose dire.
Un influenceur, tout à fait. D'ailleurs, tu es en train de retransmettre sur ta chaîne, avec autorisation signée, hein, parce que ça rigole pas le DMCA sur Twitch.
Exactement.
L'enregistrement de l'émission. Donc, on est en duplex sur ma chaîne et sur ta chaîne. C'est une première mondiale technologique. Je suis très, très fier. Merci en tout cas d'être là. Et je vais également, avant de nous lancer, remercier les nouveaux patriotes qui sont devenus patriotes depuis l'épisode précédent, ceux qui soutiennent l'émission. Les tout nouveaux, on a Mathieu Bosque, Mathieu Sanchez, les tout Matthews, on les appelle French Fury, qui est très énervé, Damien Baudet, qui est beau, et Eric, qui est simplement Eric. Merci à vous cinq. Et également, merci à Benjamin, qui est le nouveau producteur. Il a réussi à farfouiller sur patreon.com/rdvjeux pour trouver le niveau secret qui est réservé aux producteurs, qu'on remercie quasiment à chaque épisode, tous les mois. Donc, un grand merci à vous tous qui soutenez l'émission. Et d'ailleurs, si vous êtes patriote, vous aurez droit à l'after show avec Shin Megami Tensei 5, dont on va parler avec Thomas, si tout va bien, s'il nous rejoint dans l'after show. Ça fait des semaines, des mois qu'on promet de parler de Shin Megami Tensei 5 et aller explorer un petit peu pourquoi ce jeu a ses fans si assidus, et on en parlera dans l'after show. Donc ça, c'est la partie bonus de l'émission qui est réservée aux abonnés sur Patreon, qui sera en fin d'émission. Mais pour le moment, je vous propose de commencer avec le PlayStation VR 2 qui a été... Alors, on savait qu'il arrivait, on avait plein de détails, mais là, Sony, pendant le CES, a mis vraiment les petits plats dans les grands, a mis les couverts sur la table, et ils ont dit, voilà, il s'appellera, surprise, le PSVR 2, bon, ça, on s'en doutait, mais... ils ont confirmé certains détails techniques, comme le fait qu'on aurait un écran 4K, donc 2K par œil, 2000 par 2040 par œil, un angle de vision augmenté de 110 degrés par rapport aux 90 du précédent, qui était quand même un petit peu limité, c'est vrai, du feedback haptique sur le casque, c'est-à-dire qu'il y aura un petit moteur qui va vibrer sur le casque lui-même pour vous permettre d'interagir, enfin, de ressentir certaines sensations du casque de ce que vous ferez en jeu. Et puis, le fait qu'il l'annonce surtout maintenant, ou qu'il le présente de cette manière, ça peut nous laisser espérer peut-être une sortie cette année, allez, on va dire l'année prochaine au plus tard, en début d'année prochaine. Non, pas au plus tard, mais peut-être, on peut l'espérer. Et c'est particulièrement intéressant parce que l'AVR est dans une position un petit peu entre deux, on va dire encore. Le lancement des premiers casques VR modernes n'a pas envahi toute la planète comme on aurait pu le penser, mais ça n'a pas fait plouf non plus, comme le prédisaient certains. C'est un petit peu assoupi, on va dire, l'AVR. Et entre les efforts de Facebook et maintenant de Sony, qui va avoir un casque pas trop cher, on l'espère, on imagine 399 €, hein, comme je crois qu'il était un petit peu moins cher, le PSVR 1, mais on peut imaginer ce prix-là pour le 2. Et puis la connexion avec un câble à une machine puissante, donc facile à mettre en place avec inside-out tracking, donc pas besoin d'avoir de totem de caméra sur les murs et dans la pièce, simplement un câble USB-C à brancher sur la console. La console, par rapport à un gros PC, bah justement pas trop cher pour des graphismes quand même impressionnants, eh ben ça pourrait ramener la VR sur le devant de la scène. Ils ont aussi annoncé une grosse licence, donc Horizon Forbidden Mountain, je sais plus, Call of the Mountain, dont les premières images semblent assez prometteuses. Évidemment, on profite de la qualité de la PlayStation 5 et le résultat est très convaincant. Autre chose à mentionner pour ceux qui ne le savaient pas, le PlayStation VR était pas le meilleur casque techniquement, mais il était quand même très correct pour l'époque. Et puis surtout, il était le plus confortable. Et ça, le confort, c'est quelque chose de très important quand on va porter un casque pendant assez longtemps, une heure, deux heures. Bah, s'il vous pèse sur le nez, ça devient vite désagréable. Et le PlayStation VR avait, au niveau de l'ergonomie, vraiment trouvé quelque chose. Donc, tout ça pour arriver à ma question que je vais poser peut-être à Aubin. On en parlait un petit peu avant l'enregistrement. Est-ce que, à ton avis, bon, peut-être toi personnellement, est-ce que tu seras intéressé par le PSVR 2? Puis est-ce que ça peut enfin donner à la réalité virtuelle peut-être ce boost dont elle a besoin pour devenir vraiment mainstream?
Bah, personnellement, moi, ma position sur ce genre de hardware, c'est vraiment toujours la même, à savoir que bah, le hardware en tant que tel ne m'intéresse pas vraiment d'un point de vue de consommateur, on va dire. Moi, je veux des jeux. Et ce qu'ils ont montré pour le moment du PSVR 2, bah, c'est rien à part une expérience Horizon, qui ressemble à une attraction Pirates des Caraïbes à Disney, quoi, tu vois, genre une espèce de train de la mine, enfin où tu fais que regarder plus qu'autre chose. Moi, je veux vraiment des expériences.
C'est trucs sur rail, quoi.
Profite. C'est ça. Moi, quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui profite vraiment, où la VR est une vraie plus-value, comme un Half-Life Alyx, même si je l'ai pas encore fait, j'ai très très hâte, j'ai très envie de le faire. Mais justement, ce genre d'expériences, pour moi, sont encore peut-être un peu trop comment dirais-je, sortent de manière un peu trop sporadique pour me donner envie d'y aller. Par contre, moi, je trouve ça toujours extrêmement rassurant de voir un acteur aussi, aussi important de l'industrie s'engager sur un terrain comme ça, surtout que bah, moi, la VR, j'y crois sur le concept, parce que le concept est relativement fabuleux, en vrai. Mais
t'as jamais été convaincu, moi, quoi.
Si, mais pas au prix, quoi. Moi, je suis pas prêt à... Pour le moment, j'ai pas envie de mettre la somme pour un jeu, en fait. C'est juste ça. Parce que, par contre, si on me disait « Ah, ben, je peux te louer un Valve, je sais plus, un Valve Index, pardon, pour 100€ et tu fais Half-Life Alyx en 2 semaines », je pense que là, je craque parce que j'ai envie de vivre l'expérience. Mais le hardware pour le hardware ne m'intéresse pas. Je veux vraiment les jeux.
Bah, c'est ça qui est enthousiasmant avec Sony. C'est qu'eux, ils ont les développeurs et a priori, ils ont soutenu très correctement le PSVR 1 qui s'était vendu à, je crois, 8 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors, ce n'est pas les 100 millions de la PS4, mais il n'empêche. Là, elle arrive, le PSVR 2 arriverait beaucoup plus tôt dans la vie de la console, après 2 ans seulement. Et puis, avec des concepts peut-être un petit peu plus convaincants. Et puis, le fait que les manettes soient des manettes conçues pour la réalité virtuelle et pas des PlayStation Move de la génération précédente, reconvertie, tout ça, ça a l'air beaucoup plus propre. Eska, toi, tu penses que cette année, comme on en plaisante parfois sur Twitter ou ailleurs, est-ce que 2022 sera enfin l'année de la VR, comme c'est le cas de chaque année depuis 2013 et l'Oculus? Ou qu'est-ce que tu penses, toi?
En tout cas, elle le sera plus en 2022 qu'en 2021. Thanks, Captain Obvious. je suis désolée, j'ai dû m'absenter une dizaine de secondes parce qu'on a sonné à la porte et que j'étais seule à la maison. Du coup, j'ai loupé la fin de votre conversation. Mais sur le début, j'étais bien là et je rejoins complètement Aubin sur ce qu'il disait. C'est-à-dire que la VR, c'est bien, mais ce qu'on attend, c'est des jeux. Moi, j'avoue, je suis de plus en plus intéressée par la VR, là où avant, elle me laissait un peu froide, notamment justement parce qu'on a eu des jeux cette année, tu parlais de Half-Life Alyx, et je te rejoins complètement, qui sont pour moi des systèmes sellers, malgré le coût que peut représenter aujourd'hui un tel matos. Du coup, je suis assez tentée, s'il y a les jeux qui vont avec, de craquer pour le PSVR, parce que il y a toutes les améliorations qu'on connaît, notamment au niveau des installations filaires, etc. Tout à l'heure, tu disais, il y a un seul câble, hein, le cable management,
c'est ça,
est quand même un petit peu mieux.
C'est beau, ça.
Il faut se souvenir que sur le PSVR 1, il y avait quand même une boîte en plus avec genre 3 câbles derrière, 2 câbles devant. C'était infernal à brancher et c'est tout con, hein, mais quand c'est un truc, déjà, il faut dégager le salon pour... Enfin, il faut enlever la table basse, machin, pour avoir un peu de place. Si en plus, tu dois tout débrancher, tout rebrancher pour l'avoir sur la manette, sur la console, c'est une vraie entrave à l'utilisation. Là, ça corrigera tout ça, en plus de tous les autres éléments, quoi.
Donc voilà, ça, puis le fait que j'ai eu... Enfin, la PS5 est une console qui est sortie assez récemment, donc s'ils arrivent à sortir le hardware dans les mois qui viennent, j'aurais pas l'impression d'acheter, si tu veux, un device que je vais garder 1 an parce qu'après, j'aurai plus besoin de la console. J'aurais l'impression quand même d'investir pour quelques années parce que j'espère garder ma PS5 quelques années quand même. Je pense que ça rentre dans la balance aussi et c'est ce qui m'avait fait ne pas m'intéresser au PSVR 1 parce que j'avais l'impression qu'on était en... Il arrivait à un moment où la console était déjà quasiment en fin de vie. Je dis peut-être des bêtises, il faudrait regarder sur les dates, hein, si au final...
Non, c'était en milieu de... Je crois que c'était 2016, donc c'était le milieu de...
Okay. C'était le milieu de la génération, on va
c'est
dire.
C'est ça, ouais.
Donc voilà, et puis par rapport aux features, effectivement, les vibrations ou... alors je sais pas, ça doit plus s'apparenter à un genre de retour haptique, mais au niveau du casque, il faut voir comment c'est utilisé. Je me dis, ça peut être intéressant s'ils arrivent effectivement à donner ces impressions de... retour haptique entre guillemets qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on imagine, hein, mais que avoir l'impression qu'on nous pousse la tête si les vibrations sont bien calibrées, ça peut donner des choses intéressantes. Donc ouais. Je vais suivre ça de près et c'est peut-être la première fois que je me dis qu'il y a un matos de VR pour lequel je serais capable de passer à la caisse.
Voilà, tu vois, ça, je crois que c'est la clé. C'est que je pense que évidemment tout le monde ne va pas se mettre à acheter une PlayStation 5 plus un PSVR pour accéder à la VR. Mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà une PlayStation 5 et le fait que le PSVR, ça soit, on va dire, un petit, je mets des grosses guillemets, achat en plus à 300 ou 400 euros, on imagine 400 euros, ben, ça peut en convaincre certains, surtout s'ils ont les jeux. Et comme je le disais, ben, ouvrir avec un truc de la licence Horizon, ça pose un petit peu le décor. Et puis, comme on dit dans la chatroom, il n'est pas totalement impossible que Sony, pour rendre l'écosystème plus actifs, plus attrayants, rendre le PSVR 2 compatible avec le PC, ça c'est pas totalement impossible, bien sûr rien n'a été annoncé à ce niveau, mais si c'est le cas, ça pourrait booster un petit peu l'intérêt du système. Donc ça c'était pour le CES, le PSVR 2, c'est vraiment une grosse étape, mais on attendra d'en savoir un petit peu plus et d'avoir des infos, parce que là on a vu ni la gueule du produit, ni le prix, ni la date, donc c'était juste...
Ouais, bah, c'est assez étonnant justement qu'il l'ait, révélé au CES. Je pense qu'ils avaient fait pareil pour, enfin c'était pas au CES, mais ils avaient fait pareil pour le nom de la PlayStation 5, qu'ils avaient révélé comme ça un peu pas en catimini, mais dans un contexte honnêtement un peu osef, je trouve. Et c'est assez étonnant, même si le CES est extrêmement important d'un point de vue de la tech, mais peut-être un peu moins au niveau du gaming, qui est selon moi plus vers ça qu'il faut tendre. Enfin, en tout cas,
je pense que c'est pour ça
communiquer.
C'est pour ça qu'ils n'ont pas donné les détails. Ils ont donné les détails techniques. Mmh. Et je pense que c'est parce que les kits de développement sont un petit peu partout et ça avait déjà leaké, à vrai dire, hein, ces détails-là. Ouais. Donc, et j'ajoute, parce que je ne l'ai peut-être pas dit assez précisément, ce qu'on voit des images de Horizon Call of the Mountain, c'est quand même très, très beau au niveau du rendu. Ouais. Et on sait que la réalité virtuelle exploite souvent moins... Enfin, ce n'est pas qu'elle exploite moins bien la puissance des machines, mais comme elle est plus gourmande, et ben, les rendus graphiques sont souvent moins bons que ce qu'on a sur des jeux traditionnels. Et là, il faut avouer que c'est très beau sur les 4 secondes qu'on voit. Hein. Ce n'est pas non plus complètement certain, mais ça a l'air assez convaincant. Il y a aussi eu plein d'annonces de processeurs graphiques au CES. On ne va pas rentrer dans les détails. En gros, il y a eu des nouvelles cartes qui sont un petit peu moins puissantes, un petit peu plus puissantes, donc un peu moins puissantes, un peu moins chères, et un petit peu plus puissantes. On pourrait parler de la pénurie de composants et est-ce qu'on va pouvoir avoir tous ces appareils, y compris le PSVR. Bon, ça, on laissera les analystes intelligents spéculer là-dessus. On en a déjà assez parlé. Mais en gros, des cartes d'entrée de gamme du côté de chez Nvidia, 3050, qui est bon, un petit peu moins cher que ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, et puis des très chères, 3090 Ti. Donc si vous aviez une 3080, une 3090, vous pouvez l'acheter à la poubelle. Ça ne vaut plus rien. Maintenant, il faut une 3090 Ti pour être dans la course. Vous êtes au courant. Il y a aussi eu des annonces du côté de AMD, d'Intel, etc. Rien de révolutionnaire. Intel qui a donné plus de détails sur leurs cartes graphiques Arc, qui sont des cartes graphiques donc complètement indépendantes et pas uniquement des cartes intégrées au processeur. Donc, ils rejoignent AMD et Nvidia dans cette course. On attendra de les avoir dans les mains pour juger. Mais à ce stade, disons que pour les autres annonces, c'était rien de... Il n'y avait pas eu de nouvelle architecture, quoi. C'était des variations des architectures existantes. Une plus grosse annonce, à vrai dire, une très grosse annonce qu'on a eue la semaine dernière, c'est l'annonce de Take-Two qui rachète, ou en tout cas qui a l'intention, qui a fait une offre pour racheter Zynga, offre qui a été acceptée par Zynga, avec, sous réserve, le fait qu'ils ont, je crois, 45 jours pour essayer de trouver une meilleure offre ailleurs. À mon avis, ils vont avoir du mal, parce que c'est quand même une offre à 12,7 milliards de dollars, ce qui est 64% de plus que leur cours actuel à la bourse chez Zynga. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Zynga, c'était les développeurs de Farmville. Aujourd'hui, ils ont, à vrai dire, peu de jeux qu'on connaîtra, nous, je crois. Ils ont Farmville 3, qu'ils ont lancé il n'y a pas longtemps. Il y a Words with Friends, mais à part ça, Empires and Puzzles, Merge Dragons, Merge Magic, Toon Blast, Toy Blast, etc., etc. Des jeux qui sont certainement très populaires et très connus dans le monde du mobile. Ici, pour les joueurs traditionnels console PC, je pense que pour la plupart, on ne les connaît pas. Ce que ça offre à Take-Two, énorme développeur évidemment et éditeur, hein, leur gros morceau c'est Rockstar, donc GTA, et bien ce que cela offre, c'est une porte d'entrée dans le mobile, une voie royale même, puisque Zynga, ils s'y connaissent un petit peu. 12,7 milliards de dollars, c'est de loin la plus grosse acquisition dans le domaine. Il y a un très beau papier de GameCult sur le sujet qui montre notamment les acquisitions dans le domaine du jeu vidéo. Pour vous donner un petit peu le niveau de ces acquisitions, l'acquisition de Rare par Microsoft, c'était 375 millions de dollars. Taito, c'était 409 millions. BioWare par Electronic Arts, 775 millions. Je vais passer un petit peu. King, 6 milliards. C'est Activision qui avait racheté King. Respawn, ça n'avait coûté que 300 millions. Insomniac, 229 millions. ZeniMax, qui était la plus grosse en date par Microsoft encore, 7,5 milliards. Et donc, on passe de 7,5 milliards il y a deux ans à 12,7 milliards pour Take-Two qui rachète Zynga. C'est une somme monumentale. Est-ce que ça vous fait briller les yeux? J'imagine que ce n'est pas forcément ta tasse de thé, Aubin, je reviens vers toi. Qu'est-ce que tu penses de cette acquisition, toi?
Bah, personnellement, j'avoue, je suis pas extrêmement calé en jeu mobile, même si, enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est un support qui est super intéressant. Et même si moi, j'ai trouvé assez peu d'expérience qui colle à mon profil de joueur, je pense que tout est possible et il y a encore énormément de choses à faire dessus. Mais surtout, je trouve que ça montre vraiment que c'est quand même un support qui est souvent négligé, voire un peu conspué par certaines tranches de joueurs, on va dire. Et bah, là, je trouve que c'est une preuve marquante que, bah, une majeure partie du jeu vidéo, elle se passe là, quoi. Donc, faut avoir les yeux en face des trous et réaliser que quand même, oui, genre, je pense que la majeure partie du marché du jeu vidéo se déroule là et c'est pas anodin comme achat, quoi. Quand un des éditeurs les plus puissants du marché rachète un truc pareil, un prix pareil, c'est assez fou parce que Zynga, de ce que j'avais cru comprendre, hein, récemment, j'ai vu un petit passage chez BFM TV de Panta, notre cher Panta National de chez JV, qui expliquait qu'en gros, c'est pas un studio qui est au top de sa forme, hein, comme tu le disais au début, qui a eu un énorme succès avec Farmville. Donc je pense, en fait, je pense que ce que Take-Two fait, c'est pas acheter des licences ou acheter vraiment juste le studio, mais aussi une expertise et de savoir un peu ce qui marche, ce qui se fait, comment développer des outils et comment se placer sur ce marché. Et du coup, peut-être que ce qu'on verra, ce sera dans, je sais pas, 4-5 ans, des jeux mobiles avec des licences de chez Take-Two ou même des nouvelles licences, hein, qui pourront vraiment, comment dire, tout casser avec un système économique vraiment hyper bien calibré, quoi.
Bah, on peut tout à fait imaginer que Take-Two voit, comme tu le disais, les gros sacs d'argent, les monceaux, les montagnes d'argent qu'il y a du côté du mobile et qui se disent « Eh, mais on prend beaucoup d'argent sur console et PC. Il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas aussi beaucoup d'argent sur mobile. » Et toute la question pour nous, joueurs console PC, c'est de savoir ce qu'ils vont faire, quel type de jeu ils vont faire. Parce qu'ils ont des licences, on évoquait Rockstar, mais il n'y a pas que ça. Hein, bien sûr, Grand Theft Auto, mais Borderlands, Red Dead Redemption, NBA. Ils ont des jeux NBA, j'imagine qu'il y en a déjà sur mobile, mais les Bioshock, les Max Payne, les Civilization, etc. Ils prennent ça un petit peu au sérieux maintenant, même s'ils ont déjà fait des partenariats quelque part pour amener des jeux sur mobile. Et quel type de jeu ils vont faire? Parce que je crois que le mouvement qu'on voit ces dernières années, c'est que les jeux mobiles étaient effectivement conçus pour un public de jeux mobiles pendant très longtemps, et de plus en plus, on a des jeux mobiles qui sont pour un public de joueurs un petit peu plus core. Alors évidemment, ça reste des jeux mobiles, mais il y a toute une partie du monde, évidemment, pour lesquels le mobile est leur plateforme principale, et parmi ces gens-là, il y a aussi beaucoup de gens qui sont des core gamers, mais moi qui passe mes soirées sur Wild Rift sur mobile depuis quelques mois, et qui avait été assez séduit par Diablo Immortal il y a un an, bah, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas une opportunité dans le mobile, même pour les core gamers. Et je ne vois pas, en fait, Take-Two tout à coup se mettre à faire Grand Theft Auto, Candy Crush Story, tu vois. C'est pas qu'ils vont tout à coup se mettre à faire des... Alors, il y en aura peut-être des jeux super casual avec leurs IP, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça, je crois. L'intérêt, c'est plutôt d'amener des jeux un petit peu plus core gamer sur mobile pour les joueurs core gamer quand ils sont pas sur leur console ou leur PC, et puis pour les joueurs core gamer qui n'ont pas de console ou de PC, en particulier dans certaines parties du monde. C'est quelque chose de vraiment intéressant, je trouve, et le mouvement que prend le mobile ces deux dernières années, je crois que comme on n'est pas très client de jeux mobiles traditionnellement, nous, de notre côté, et comme tu le disais, Aubin, on a tendance à regarder ça d'un petit peu haut, on ne voit pas cette transition légère qui se fait, et je me demande si ça, ce n'est pas un signe, peut-être. Eska, tu as quelque chose à ajouter ? J'ai monopolisé la parole.
Bah non, parce que c'est le genre de news que je reçois assez froidement, c'est-à-dire que pour moi c'est plus de l'investissement financier que, en plus là bon ça concerne effectivement un marché je suis clairement pas la cible. Donc oui, après bon, ça reste quand même un Take-Two, c'est quand même un mastodonte. Donc après, est-ce qu'ils vont apporter quelque chose à ce que fait déjà Zynga? Je pense pas. Enfin, pour moi, c'est juste de la stratégie financière et ils vont les laisser faire ce qu'ils font déjà très bien. Bah, ils vont faire fructifier.
Non, mais ils vont forcément amener des jeux de leur catalogue sur mobile. Ils vont pas juste laisser Zynga faire leur truc dans leur coin et pas amener. Enfin, tu payes pas 12 milliards. Pour ne pas mettre un Grand Theft Auto online sur mobile, c'est pas possible, tu vois, qui fait déjà.
Franchement, j'en sais rien.
Moi,
je sais pas. On verra. Bah, après, voilà, c'est peut-être moi qui n'ai pas le. J'ai un doute. Enfin, voilà, moi, c'est le genre de news que j'accueille en me disant, ils mettent des sous. Enfin, voilà, c'est du financier. Et,
il faut avouer que du côté de Activision, par exemple, ils ont racheté King. Ils ont sorti quelques jeux sur mobile, mais j'ai pas l'impression que ça soit effectivement que la stratégie ait été on va amener toutes nos franchises sur mobile par l'intermédiaire de King. Après, ils vont amener leurs franchises sur mobile par d'autres intermédiaires, mais c'était pas en passant par King. Mais là, Take-Two, moi je dirais, c'est leur. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit clairement, on a l'opportunité d'amener des grosses IP console PC sur mobile. Donc, bon, après, on verra ce que ça donne. J'ai quelques chiffres de 2021 dont j'aimerais discuter un petit peu pour. On parlait de cette question des jeux mobiles et des jeux auxquels on ne pense pas forcément. Les jeux les plus discutés sur Twitter en 2021, est-ce que vous savez desquels il s'agit ? Peut-être que vous pourriez vous en douter. Si je vous dis le jeu qui a été discuté le plus, je ne sais pas s'ils sont dans l'ordre, mais donnez-moi un ou deux les jeux dont on a le plus discuté sur Twitter, à votre avis, sans regarder les notes.
Hein. Ah, mais je vois tout.
Damned,
malheureusement,
c'est la faute de Twitch. Est-ce que dedans t'as Wordle ? Non, il est sorti trop tard. Et je ne jouerai pas à Wordle, j'ai pas joué à Wordle. Je boycotte Wordle. Non, autre chose. Vas-y, Eska.
Alors, les jeux ou le jeu, pardon ?
Il y en a une liste de 10 jeux. Est-ce que tu peux en deviner quelques-uns ?
Bon, allez, il doit bien y avoir un Battlefield ou un Call of Duty dedans, non ?
Même pas. Non.
Je te pose une colle.
Alors, ouais. Écoute, je vais te donner la liste. Genshin Impact, Apex Legends, Final Fantasy, Fate Grand Order, on le connaît, hein, jeu mobile, Animal Crossing New Horizons, Minecraft, Fortnite. Mais il y a aussi, alors tout cela, on peut s'en douter, des jeux, beaucoup de jeux gratuits, etc. Mais il y a deux jeux dont j'avais jamais entendu parler. Project Sekai, j'avais regardé, mais je sais plus ce que c'est. Ensemble Stars, que j'ai dû aller regarder aussi, c'est un jeu de rythme sur mobile japonais, qui est un jeu de rythme hyper, hyper populaire. Et ce que je note surtout, il y a Knives Out aussi, qui est un Battle Royale en Asie, et Genshin Impact, qu'on oublie un petit peu, mais qui lui aussi est extrêmement populaire. Vas-y.
C'est là que j'ai une mémoire de poisson rouge absolument fabuleuse, puisque j'ai ouvert ton lien hier soir et je l'ai parcouru. C'est quand même merveilleux. On va dire que je ne suis pas dans mon état normal depuis quelques semaines.
Ouais,
on va mettre
c'est
ça
le COVID
dans
le long, c'est le COVID.
C'est l'émotion.
Les jeux les plus joués sur Steam. Est-ce que vous pouvez...
Je masque.
Est-ce que par hasard, il y aurait des jeux de l'autre liste qui se trouvaient dans cette liste-là ?
Possiblement, ouais.
Déjà, il y a Cyberpunk, non ? Je pense.
Alors non, moi je ne vois pas Cyberpunk dans la liste. Non, par contre, Apex Legends encore. Alors là, on se dit, ah ouais, ok, mais tous les jeux gratuits, Counter-Strike, Global Offensive, enfin CSGO, et qui a une longévité, ce jeu, mais c'est invraisemblable. Dota 2, bon, c'est les jeux Valve, mais quand même. Mais on retrouve aussi des trucs comme bon, Apex Legends encore, free to play. Battlefield 2042, l'un des jeux les plus joués. Grand Theft Auto 5, évidemment. Ah, t'avais dit, pardon. New World, ça on le savait, il a fait beaucoup de bruit. PUBG Battlegrounds, qui est encore dans la liste. Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Valheim, gros succès de l'année dernière, dont on n'a pas forcément continué à parler. Destiny 2. Naraka Blade Point. Je suis très curieux d'essayer un jour ce jeu. Je l'ai acheté pendant les soldes Epic Games. Il faudra que je le teste à un moment. C'est un Battle Royale d'armes de mêlée. Enfin, d'armes... épée, etc. Et donc, c'est quand même des certains jeux auxquels on ne pense pas forcément tous les jours. Destiny 2, d'ailleurs, qui y est aussi. Donc là, c'était quelques chiffres sur Steam. Il reste quelques chiffres sur le PlayStation Store que je voulais évoquer. Enfin, c'est pas des chiffres, mais les plus grosses ventes et les jeux les plus téléchargés sur PS5. Alors, les chiffres ne sont pas forcément les mêmes en Europe et aux États-Unis, mais en Europe, on a FIFA 22, Call of Duty Vanguard, FIFA 21, et après, bon, c'est un petit peu des classiques, mais FIFA 22 et FIFA 21 en première et troisième place, c'est quand même fort. Vanguard, bon, Call of Duty indéboulonnable, même s'il n'a pas été très bien reviewé. Miles Morales, ok. Battlefield 2042, qui est dans la liste aussi. Et puis après, on retrouve Among Us, Kena, Far Cry 6, It Takes Two, Assassin's Creed Valhalla, F1 2021. Bon, clairement, il y a beaucoup de gens qui sont fans de F1. Resident Evil Village, NBA 2K 2022, jeu Take-Two qui est premier aux États-Unis, etc., etc. Diablo 2 Resurrected qui est dans la liste aussi. Et les jeux PS4, c'est pas tout à fait la même chose évidemment, mais on retrouve FIFA 22 et FIFA 21 dans les premières places. Voilà pour les quelques chiffres. Enfin, les quelques listes. Oui, vas-y, dis-moi.
Bah, c'est assez logique. Après, c'est effectivement la liste de tous les jeux multi récemment sortis ou toujours... sous la houlette de la hype.
Bah là, oui, quelques-uns, mais il y en a aussi qui sont un petit peu plus les traditionnels. Hein. Les ouais. FIFA, on les ouais, trouve FIFA, à chaque fois.
C'est fou quand même. Hein, mais c'est juste les footeux. Les footeux.
Et c'est ce qu'on dit à chaque fois. On ne se rend pas compte à quel point, même, tu sais, tu disais la majorité du jeu vidéo, c'est sur mobile. C'est vrai. Ou peut-être que c'est 50-50, on va dire. Mais dans les jeux traditionnels, les core gamers qui sont sur PC et console, en fait, la majorité, bah, c'est FIFA, NBA 2K, Minecraft, ce genre de trucs.
Pour avoir travaillé pendant genre un an et demi, deux ans dans un magasin de jeux vidéo, vraiment, je pense que, en tout cas en magasin, un joueur sur deux joue seulement à FIFA et à Call of Duty, quoi. Le joueur moyen, vraiment, je ne le voyais que pour ça, quoi.
Ouais, c'est fou. Ils achètent deux jeux par an, c'est FIFA et Call of, ouais, et voilà, et c'est tout.
Parce que, en fait, je pense que c'est aussi parce que ce sont des jeux un peu comme ce qui est devenu Fortnite maintenant, qui sont plus des lieux de rassemblement, quoi. Plus que des vrais jeux. Enfin oui, ce sont des vrais jeux, mais on y joue pour continuer à la même version avec nos potes, quoi. Exactement, ouais. Exactement, des jeux sociaux.
Et après, il faut que tu achètes plein de paquets de cartes sur Ultimate Team pour être sûr d'avoir la bonne équipe qu'il faut sur le 22. Je me demande si ça se... Tu gardes pas tes cartes de FIFA 21 sur 22
Non, je pense pas.
Je crois pas. Hein. Et tu te rends compte, EA qui a vendu même cette année des camions entiers de FIFA 21, après ça, ils ont Ultimate Team. Bon, bref. et entre parenthèses, Steam a battu encore ses records de joueurs simultanés. En janvier, c'est le 9 janvier, je crois, il y avait plus de 28 millions de joueurs simultanés sur Steam. Pour vous donner un ordre d'idée, de 2019 à 2022, le record de joueurs simultanés en 2019, c'était 17,6 millions, 18,3 en 2020, et ça a sauté à 25,4 en 2021 avec le Covid, et 28,2 encore cette année. Quand on voit tout ça, je me dis que Gabe Newell, vraiment, pourquoi il va s'emmerder à faire des jeux? Il n'a pas besoin.
Okay.
Les gens chez Steam, je ne sais pas ce qu'ils font, enfin chez Valve, ils ne sortent pas de jeux. Ils doivent... Quand tu vas au boulot chez Valve, tu fais quoi? Déjà, ils sont organisés de manière bizarre. C'est chacun travaille sur ce sur quoi il veut travailler. Ils ont les équipes qui se forment selon ce qu'ils veulent. Il y a très, très peu de structure, enfin d'après ce qu'on entend, de structure hiérarchique. Tu fais quoi quand tu vas chez Valve, en fait, au boulot le matin? Je ne sais pas. tu vérifies que le store est bien en place.
Oui, c'est ça. Ça se trouve, ils jouent juste au baby-foot toute la journée. On n'en sait rien.
Ouais, hein. Ouais, mais a priori, ils ont vraiment une politique interne salariale qui est assez paradisiaque, semblerait-il.
Ouais, il semble, effectivement. Bon, après, il y a tout ce qui est maintenir CSGO, Dota 2, etc., les championnats, tout ça, mais... Bon, tu comprends, hein, quand tu fais autant d'argent sur ton store, la motivation à développer des jeux est peut-être un peu moins grosse. Même s'ils ont dit, c'était il y a quoi, il y a 2 ans, ils disaient, ça y est, on va faire des jeux, c'est garanti, c'est sûr, on va s'y remettre. Bon, on n'a rien vu, à part Half-Life Alyx, mais ça, je ne sais même pas si ça compte. Écoutez, on va parler de nos jeux du moment, les jeux auxquels on joue en ce moment. Je voudrais juste... vous dire un tout petit mot sur Patreon. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est Patreon. Peut-être que l'une de vos bonnes résolutions de l'année 2022, c'est d'écouter plus de podcasts gaming. Et donc, vous avez trouvé le rendez-vous jeu et vous vous dites, mais ce podcast est d'une qualité incroyable. Le seul défaut, c'est qu'il y a des petites pubs quand même de temps en temps. Comment est-ce que je peux faire pour me débarrasser des pubs? Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur patreon.com/rdvjeux et vous pouvez soutenir l'émission pour une somme vraiment modique, moins d'un café par épisode. C'est pas grand-chose, un petit euro. Et vous pouvez donner un petit peu plus, hein, si vous voulez. Il y a des trucs, des petits bonus en plus. Mais pour le prix d'un café par épisode, vous pouvez avoir accès au flux privé qui a du contenu supplémentaire et... les time codes dans les descriptions pour passer au sujet qui vous intéresse le plus ou passer ceux qui vous intéressent le moins. Il n'y a pas de pub, il n'y a même pas cette petite partie promo au milieu. Bref, si vous appréciez l'émission et en plus, accessoirement, hein, vous soutenez l'émission et vous nous permettez de continuer à la faire et c'est vous qui êtes la source de revenus principale de l'émission. Donc, si vous appréciez le rendez-vous jeu, patreon.com/rdvjeu, le lien est dans les notes de l'émission. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission. Et puis, si vous soutenez, on vous remercie évidemment dans l'émission. Ça sera le cas pour les nouveaux soutiens dès la semaine prochaine, puisqu'on a ce système maintenant. On vous remercie tout de suite. Et je vous remercie en plus maintenant ici dans l'émission. En même temps, ceux qui soutiennent, ils n'entendent pas puisqu'ils n'ont pas la partie pub et la partie promo.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
On vous fait des gros bisous à tous et on passe à notre partie sur les jeux du moment. Et quand je dis jeux du moment, on est un petit peu large parce que Aubin a joué à l'un des meilleurs jeux de la décennie précédente. À quoi t'as joué récemment, dis-nous Aubin?
Alors ouais, je l'ai refait, pas intégralement, mais je l'ai refait en bonne partie en stream là. Donc j'ai refait Zelda Breath of the Wild pour la 3e fois. Ma deuxième run, je n'avais pas fini le jeu, mais là je l'ai refait pour la 3e fois en expert, hein, en mode difficile, et j'ai fait pour la première fois les DLC. Et en fait c'est marrant parce que c'est un jeu que je trouve assez facile.
C'est ça que tu veux dire, non?
Okay. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais justement c'est marrant parce que c'est un jeu que j'aime bien lancer quand je sais pas trop quoi faire, quand j'ai du creux, on va dire, dans une période de creux. Là j'attends Windjammers 2 comme ma vie, mais en attendant, j'ai joué à Zelda Breath of the Wild, je l'ai refait. Alors c'est un lieu commun, hein, mais franchement je l'ai repris en, en plein dans la tronche, quoi. Vraiment, moi, je... c'est pas mon jeu préféré, mais je... c'est quand même un des jeux les plus fantastiques auxquels j'ai jamais joué, je pense. Et le refaire, ça a été vraiment une expérience de ouf. C'était très cool aussi de se faire backseat à foison sur le chat, mais non, vraiment... Tout a déjà été dit, en fait. C'est un peu le problème, mais...
Mais tu l'as refait pour préparer l'arrivée du 2 cette année, ou c'était juste, t'avais envie de te faire un petit trip jeu tranquille, sympa? En même temps, en expert, ça doit être un peu dur.
Mais exactement. Enfin, en fait, le truc, c'est que le mode expert, finalement, m'a poussé à pas trop me battre. Donc, je me suis plus baladé que dans aucune de mes runs. Juste, j'ai esquivé les combats. Mais sinon, c'est plus pour la deuxième raison, même si j'ai très envie, j'ai très hâte de jouer au 2. Qui est toujours prévu pour cette année, mais moi j'y crois pas trop. Mais non, c'était vraiment plus pour avoir un support de conversation et de détente, parce que c'est honnêtement, après je suis pas non plus très jeu feel good de base, hein, mais de ma carrière, de ma vie de joueur, il y a assez peu de jeux qui me détendent autant, parce que la balade est absolument fantastique et parce que bah il y a cette liberté, et cette, en fait c'est un jeu qui te met aucune pression, à part en de très rares occasions, et ça je trouve ça assez fou d'avoir une vraie expérience, une vraie aventure, mais en même temps aucune pression, et ouais, c'est vraiment un plaisir d'y retourner. Et
je suis assez d'accord. Tu me donnes envie de refaire un petit tour dedans. J'ai tellement peu de temps que je vais attendre l'arrivée du 2, tout simplement. Mais ouais, c'est... Et puis, c'est un jeu qui est tellement organique qu'on peut y retourner, avoir une expérience assez différente des fois précédentes, avec toute la physique du monde et l'interaction chimique, etc., ce dont on parlait. Et puis, j'imagine que le fait de l'avoir déjà fait... Le refaire, tu l'approches un petit peu différemment parce que tu connais justement toutes ces complexités. Je revois le trailer, là, ça me redonne envie.
Mais complètement, moi, justement, vu que je l'avais déjà fait, il y a un peu aussi cet ego de joueur où me dire tout simplement, bah, je ne vais pas le refaire exactement de la même manière, c'est bête, quoi.
Ouais.
Et du coup, bah, typiquement, j'avais été à la créature divine la plus éloignée, donc qui te donne un sort de déplacement vachement fort. Donc je l'ai fait en premier, et puis je me suis dit bon, je vais juste faire un max de sanctuaires, juste me balader et tout, et donc j'ai pas du tout suivi la même structure et la structure encouragée de base par le jeu, et du coup je l'ai redécouvert de manière complètement différente. J'ai fait plein de zones que je connaissais pas et tout, j'ai fait tous les souvenirs, ce que j'avais pas fait à ma première run. Enfin ouais, tout a déjà été dit, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures.
Oui.
Mais pour moi, c'est vraiment un des plus grands jeux.
Écoutez, si vous n'avez pas assez de jeux à faire en ce moment, vous pouvez retourner faire un petit peu de Breath of the Wild. C'est jamais du temps perdu. Eska, à quoi tu as joué en ce moment? Tu as testé plein de trucs pendant les vacances, j'ai l'impression.
Ben oui, du coup, vu que j'étais un petit peu à domicile... j'ai pu faire plein de petits jeux, donc je t'ai fait une petite sélection. Gros coup de cœur pour Toem, qui est un petit jeu en noir et blanc dans lequel on joue un petit personnage tout mignon dans un monde tout mignon qui
doit
faire
des photos, c'est ça?
Ouais, c'est pas tout nouveau, mais il était sur le Game Pass et je me suis dit, allez, c'est l'occasion jamais de le faire. De toute façon, là, je ne vais te parler que de jeux qui sont sur le Game Pass, hein, attention. Donc, vraiment, gros coup de cœur pour ce petit jeu hyper feel good. Ça dure 4-5 heures. C'est très bien fait, c'est très poétique, c'est plein d'humour. J'avais l'impression un peu de jouer à une version soft de, en termes vraiment d'ambiance d'Animal Crossing. Ça me faisait un petit peu penser à ça. Avec un monde peuplé de personnages avec des têtes d'animaux, tu vois. Enfin, voilà, vraiment un très très agréablement passé en compagnie de ce jeu. J'ai aussi fait The Gunk, dont on avait pas mal entendu parler, parce qu'il me semble que c'est une exclusivité Game Pass, hein, si je dis pas de bêtises.
Pas exclu, mais il est dispo sur le Game Pass.
Alors oui, je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il était sorti, peut-être parce qu'il était sorti J1 sur le Game Pass, enfin je sais plus, il y avait eu...
Ah, tu veux dire qu'il est pas sorti ailleurs? Tu me poses une colle là, tout à coup.
Je me demande si c'est pas une exclu...
The Gunk, est-ce que ça serait une exclu Xbox, du coup, tu veux dire?
Oui, voilà.
Alors effectivement, il est sur Windows aussi, mais il est pas sur PlayStation, en gros, quoi.
Bon. Et quand il était sorti, il avait pas mal fait parler de lui. Je m'étais dit, allez, on va le tenter. La première prise en main que j'ai eue avec le jeu a été très mauvaise. J'ai eu un très mauvais ressenti. Je trouvais que le manette en main, c'était très pâteau comme gameplay. J'aimais pas du tout le ressenti. Et puis, c'est un jeu où t'as un espèce de Ghostbuster, sauf que tu chasses pas les fantômes, tu chasses une espèce de matière qu'ils appellent le gunk, qui est une espèce de slime noir qui a envahi le monde sur lequel ils ont atterri. Et donc, je me suis dit, ça y est, c'est un jeu où il va falloir jouer à l'aspirateur dans tous les sens pour récolter de la ressource et faire du craft. Ça va être relou. Donc, au bout d'une heure de jeu, j'ai reposé ma manette et j'ai balancé un tweet en mode, oulala, en fait, je pense que ça va pas du tout me plaire. Et puis, je l'ai repris et je l'ai fini quasiment d'une traite. Et en fait, j'ai adoré. Ouais.
C'est marrant parce que les reviews étaient assez tièdes, on va dire, sur le jeu.
Et... Oui, coup, c'est, un jeu qui... c'est un jeu qui n'est pas parfait. Moi, je trouve qu'au niveau du gameplay, voilà, il y a quelques, il y a un peu de platforming à faire et je n'ai pas perdu cette sensation du côté un petit peu, je te dis, pâteau, un peu collant dans le manette en main. Je ne sais pas comment le décrire. C'est loin d'être parfait, en tout cas, en termes de sensations et de précision, on va dire, de gameplay. Néanmoins, l'univers est chouette, tout est doublé intégralement et vraiment très bien doublé, il y a un très bon jeu d'acteur, je trouve. Visuellement, c'est mignon, l'histoire est chouette, ça casse pas quatre pattes à un canard, mais voilà, il y a un discours un petit peu écolo derrière qui est sympathique. Et puis au final, c'est des petites énigmes sympas, on le voit là sur le trailer que t'es en train de passer, il n'y a pas ce côté craft relou.
Tu veux dire
relou,
du puzzle,
en fait.
Quand tu dis des énigmes, c'est un petit peu puzzle game, quoi. Enfin un puzzle, ouais.
C'est très léger, hein. Enfin, vraiment, moi, je suis loin d'être la personne la plus douée sur Terre pour les puzzle games et j'ai pas vraiment été coincée à aucun moment de l'histoire. Donc, c'est plus, voilà, c'est tu suis une histoire dans un univers qui fait un peu penser à l'univers d'Avatar visuellement, avec beaucoup de couleurs dans tous les sens. Et bah, au final, écoute, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. C'est un jeu qui est pas très long à faire. Très bon candidat pour moi et je suis vraiment complètement revenue sur cette première sensation un peu berk-berk que j'avais eue sur la première heure.
Combien de temps à faire à peu près?
Ouais, allez, 5 heures à tout péter.
D'accord.
Voilà, okay. Donc très chouette. Et le dernier petit jeu... Alors, The Procession to Cavalry, c'est un extraterrestre, ce jeu, c'est un jeu de point and click. Il faut imaginer si les Monty Python, alors c'est peut-être une référence de Boomer, les Monty Python, et je m'en excuse, mais si les Monty Python avaient fait un jeu vidéo, il ressemblerait très certainement à celui-ci. C'est un jeu qui a été développé, a priori, par un mec un peu tout seul dans sa cave. Je pense qu'il vit dans une cave, parce que franchement, vu l'humour qu'il a et les références qu'il a, moi, j'imagine très bien, avec beaucoup d'affection. Et je m'approprie un petit peu l'image du geek qui vit dans sa cave et qui développe. C'est complètement absurde. C'est très drôle. Il brise le quatrième mur. Alors, pareil, les énigmes sont pas très tordue ni bien méchante. Et voilà, en fait, vous jouez une espèce de une femme chevalier qui a envie de tuer des gens, sauf que dans les premières secondes du jeu, on t'apprend que ben il y a plus besoin de tuer des gens parce qu'en fait c'est la paix, on a fini la guerre, c'est la paix. Elle, ça lui va pas du tout, elle veut absolument tuer des gens et elle va trouver toutes les raisons possibles pour aller utiliser son épée de façon complètement sanglante. Et voilà, c'est très drôle, c'est très bien écrit. Par contre, voilà, on le voit sur le trailer, visuellement, il faut...
T'as pas parlé des visuels, mais enfin, c'est quand même incroyable. C'est des graphismes, en fait, il a découpé des morceaux d'images des tableaux de la Renaissance.
Ouais,
et c'est pour ça que ça fait penser un peu à Monty Python.
C'est ça.
C'est animé avec ça, c'est hyper bizarre, c'est assez marrant.
C'est du collage, en fait, hein, effectivement. On dirait, limite, tu sais qu'effectivement, c'est animé un petit peu comme les spectacles chinois que tu vois avec les ombres chinoises. On imagine des petits bonhommes de papier. Donc, c'est très spécial visuellement, mais c'est très cohérent. Très cohérent dans la façon dont c'est utilisé, l'humour qui est derrière ça. Et voilà. Donc, à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que c'est quand même vraiment très spécial. Mais si vous aimez
c'est
les
œuvres...
C'est
le genre de truc que je vais être un petit peu plein de préjugés, mais le genre de truc que le joueur qui joue à FIFA et Call of Duty dans l'année, ça va pas être son truc, quoi.
Ah non, pas du tout. Non, c'est vraiment, c'est de l'indé, mais le jeu de niche indé à son paroxysme. Mais effectivement, il y a une femme chevalier en héros, et rien que pour ça, il faut y jouer. Et voilà, si vous aimez les œuvres un peu... extraterrestre, il faut le faire. C'est vraiment très chouette. Et là aussi, ça se fait en 2-3 heures grand maximum. C'est vraiment très chouette.
Dans la chatroom, Fanny nous dit point femme chevalière. Est-ce qu'on dit chevalière? C'est une grande question que j'ai parce que mon fils, il aime beaucoup les chevaliers en ce moment. Il est un chevalier et je veux lui expliquer que, bien sûr, on peut être un chevalier si on est une femme aussi. Et je dis chevalière, Est-ce qu'on dit chevalière, Fanny? Je serais heureux de savoir. Donc,
c'est vrai que pour moi, la chevalière, c'est la bague. Donc,
oui, c'est ça, exactement. Femme en armes, mais oui, chevalier, d'accord.
On femme a une spécialiste armes. Dans le chat, en plus, c'est merveilleux.
Mais
tu vois, c'est un jeu pour Fanny, j'en ai aucun doute.
Très bien. Et retournement de situation. Ah oui, c'est sur quelle plateforme?
Alors bah, là aussi, le Game Pass, est-ce qu'il est présent sur... Mais je sais qu'il est aussi sur Steam, puisqu'il y a des clins d'œil qui sont faits à Steam à un moment. Est-ce qu'il est sur Switch? Je ne sais pas, mais Google est notre ami.
Google est notre ami. Google nous dit qu'il est sur Switch, PlayStation 4, Android, Windows, Linux, Macintosh et Xbox One. Donc, bah, c'est à peu près partout.
Il va utiliser absolument toutes les ressources de vos consoles de nouvelle génération, bien
c'est
évidemment.
Ça, c'est certain.
Retournement de situation incroyable. On pensait qu'il n'y avait qu'un jeu auquel Aubin avait joué. Il se trouve que finalement, il y en a deux. Duquel s'agit-il, dis-moi, ton deuxième?
Ouais, en fait, j'avais complètement zappé, mais j'étais en déplacement chez ma belle famille récemment. Et j'avais pas vraiment de gros support de jeu. J'avais pris ma Switch, mais je trouvais rien qui convenait à des sessions de jeu relativement courtes. Et je suis tombé sur Pianista, ça s'appelle.
Pianista. Qui est en fait un jeu...
Pianista, donc pianiste avec un A à la fin au lieu d'un E.
D'accord.
Et en gros, bah, c'est simplement un jeu musical sur mobile, même Pianista Game, et tu trouveras, ouais. C'est simplement un jeu musical sur mobile avec que du classique, du baroque et du romantique joué au piano. Et c'est très très agréable, c'est très satisfaisant. C'est un peu. Bon, beaucoup ont joué à Piano Tiles, hein, qui est, lui est un jeu infini. Le jeu accélère de plus en plus. Ici, on joue vraiment la partie. Enfin, on joue pas la partition, mais on joue le morceau, quoi. Donc, c'est plus Guitar Hero que Piano Tiles. Ça demande un certain degré de précision, et bah, c'est ultra satisfaisant parce que je trouve les arrangements très chouettes. Les enregistrements sont très très bons. Donc, la qualité sonore est vraiment très cool, ce qui est vraiment pas négligeable sur un jeu musical. Moi, j'écoute beaucoup de classiques dernièrement, du coup c'est ultra agréable et je recommande vraiment. Juste moi, je l'avais acheté sur Switch. Sur Switch, il est très cher, il est à 25 euros, alors que sur mobile, il est gratuit.
Ah, c'est l'effet Nintendo Store. Ça.
C'est...
Ouais, non,
c'est
gratuit, mais il y a
effectivement une différence. C'est comme les pixels blancs et les pixels noirs sur un OLED. C'est le contraste est voilà. Infini là, quand même.
Mais par contre, sur téléphone, il est ça fonctionne par abonnement ou alors t'es limité par le nombre de.
Bien sûr.
De parties que tu peux jouer. Ce qui est bien fait par contre sur Switch, c'est qu'en fait, quand on joue en portable, on a un Joy-Con à gauche, un Joy-Con à droite, hein, de part et d'autre de l'écran. Mais du coup, comme vous le voyez, les boutons qui sont demandés sont les flèches à gauche ou les boutons à droite. Et du coup, il y a un vrai côté ambidextre ouais. Qu'on retrouve sur le clavier qui n'est pas. Que tu peux pas retrouver comme ça en fait sur un écran tactile où juste tu tapes au bon endroit. Donc il y a un vrai côté, ben voilà, je joue de la main gauche, je joue de la main droite. Et la manière dont sont agencés les je sais pas comment on appelle ça, mais les endroits, les déclics sur lesquels appuyer, ben c'est très bien pensé. Je trouve que ça, il y a un vrai côté jeu pianote, quoi. Et donc c'est très agréable à jouer.
D'accord.
Et tu peux pas y jouer en tactile sur la Switch?
J'ai même pas essayé, figure-toi, mais je pense pas.
Ah,
d'accord. Et donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu es devenu un virtuose du piano maintenant que tu as joué à Pianista.
Ou un bourgeois, comme vous voulez. Mais
un bourgeois gentilhomme.
Voilà. Pour ma part, moi, j'ai joué à quoi? Alors, j'ai joué à... Je vais dire un petit mot sur Genshin Impact, que j'ai relancé, parce que ça fait partie de ces jeux... dont je me dis, il faudrait que j'y joue un petit peu plus. Il y en a plein. Hein. Il y a Genshin Impact, il y a Naraka Blade Point que j'ai évoqué. J'aimerais bien les explorer un petit peu plus. Et donc, j'ai relancé Genshin Impact, auquel j'avais joué quelques heures sur PlayStation. Je sens que c'est vraiment un jeu auquel il faut être marié pour y jouer vraiment. Et du coup, ce que ça m'a donné envie, c'est de rejouer à Zelda Breath of the Wild. J'avais oublié à quel point c'est inspiré de Breath of the Wild, mais même dans les sonorités, c'est des petites touches de piano ici et là. Enfin bon, bref. Mais Genshin Impact, donc je ne m'y relancerai pas. Pas parce que j'ai pas envie, il y a plein de gens qui en parlent et qui en parlent avec beaucoup d'amour, mais simplement parce que je crois que j'ai pas le temps. Et du coup, j'étais sur ma PlayStation et je me suis dit, ah bah, je vais tester un truc. Allez, il y a Godfall qui est donné en version, je sais plus comment elle s'appelle, version Challenger ou un truc comme ça, et qui avait été donné il y a pas longtemps sur le PlayStation Plus. Et du coup, je me suis dit, je vais le lancer 10 minutes et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ce jeu qui était sorti au lancement de la PlayStation 5, qui était un petit peu une exclue, il a depuis été adapté sur d'autres plateformes, dont PlayStation 4. Et je me suis dit, je vais juste le lancer 10 minutes pour voir de quoi il en retourne. Et en fait, j'ai joué, je sais pas, peut-être 1h30, 2h. Et vraiment, ce jeu... Je me souviens que les reviews étaient assez moyennes, pas catastrophiques, mais vraiment pas très bonnes, et que certains disaient « Ah oui, mais c'est dommage, il y a quand même des choses bien dans le jeu, et les reviewers sont trop sévères, etc. etc. » Et en fait, en y jouant, je me rends compte à quel point c'est dommage. Ce jeu, c'est un jeu qui entreprend énormément de choses et qui est aux portes de la réussite, en fait. Il a fait genre 80% du chemin et il s'est arrêté au dernier... Il lui fallait encore 3 pas. Et on sait bien que dans le jeu vidéo, les derniers 10%, c'est ce qui te prend la moitié de ton temps de développement. Donc, je comprends que ce n'est pas facile à faire, mais il fait... Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Godfall, c'est un jeu qui avait l'ambition d'être un petit peu un looter-shooter, mais sans shooter, et plutôt looter... contact mêlé, looter Dark Souls. Et il y a un petit peu de Dark Souls, un petit peu de Destiny, un petit peu de Warframe, un petit peu de Diablo. Et le système de combat est vraiment sympa, vraiment bien fait. Mais d'une part, enfin, j'ai l'impression que c'est un jeu qui veut trop en faire. Il y a des millions d'options d'écran, d'augmentation, de talents, d'armes différentes, des armures différentes qui vont faire des trucs. Tu comprends rien, surtout dans la version où tu commences directement en endgame. Tu comprends pas grand-chose, mais le système de combat est fun et il y aurait eu un potentiel vraiment important s'ils avaient eu, je ne sais pas, 6 mois, 1 an à passer en plus dessus, et surtout s'ils avaient pu faire des choix. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas su enlever ce qui était en trop dans le jeu, et ils en ont trop fait, en fait. Et ils n'ont pas assez peaufiné l'expérience. J'ai été surpris parce que je pensais que c'était un jeu qui était juste pas bon. Et c'est pas le cas. C'est un jeu qui aurait pu être bien. On me rappelle dans la chatroom, c'est Looter Slasher. C'est comme ça qu'il l'indiquait. Et ça, c'est vraiment ça. Et tu sens toutes les possibilités derrière le jeu qui, malheureusement, n'ont pas été réalisées. Et à côté de ça, j'ai continué à jouer beaucoup à Wild Rift, donc la version mobile de League of Legends. La version mobile de League of Legends, qui est une réussite dont j'ai déjà parlé pendant des semaines, pendant les épisodes précédents.
T'as vu, t'as pété sur Twitter.
Ah ouais, c'est mon truc du moment.
C'est platine maintenant, non, c'est ça ? T'es pas platine ? Tu es platine maintenant, non ?
Platine, exactement, ouais. Je navigue entre platine, début platine et fin or, mais généralement, je réussis à remonter en platine. Et vraiment, je suis tombé dans un rabbit hole de Wild Rift et de League of Legends et de l'univers qu'a créé Riot autour de ses propriétés. Et c'est marrant parce que il y a des sous-communautés dans la communauté des joueurs et des choses qui sont... T'as l'impression que c'est des trucs qui évoluent dans l'ombre, que tu connais pas trop, alors que, bon, mon métier, c'est quand même de connaître les jeux vidéo, mais c'est impossible de connaître toutes les communautés et toute leur richesse, parce qu'il y en a trop. Et je suis sûr qu'il y a des gens, par exemple, qui sont à fond sur For Honor, par exemple, un truc dont on n'a jamais entendu parler, enfin, dont on ne connaît pas la richesse, des gens qui sont à fond sur Rainbow Six Siege, etc. Il y a plein de communautés comme ça. Et un truc que je suis allé faire parce que je me suis intéressé, vous vous en souvenez, j'ai mis le pied là-dedans avec Arcane, la série animée absolument phénoménale qui est sortie sur Netflix en fin d'année dernière. Et donc, je suis allé voir les vidéos de Riot sur les trucs de League of Legends. Et il y a une quantité de directions qu'ils prennent qui est incroyable. Ils ont du Déjà, pour leur cinématique, ils ont plein de styles différents. Graphiquement, dans la narration, enfin, depuis 10 ans qu'ils ont lancé le truc, ils n'ont pas un style unique. Ils explorent à chaque fois des styles différents qui sont hyper intéressants pour raconter leurs histoires et présenter leurs personnages. Il y a une mécanique de multivers, parce qu'évidemment, le but des jeux, c'est de vous vendre des trucs, et dont les skins. Et donc, pour les skins, ils ont créé, en fait, plein de sortes d'univers alternatifs auxquels appartiennent plusieurs de leurs personnages. Il y a l'univers Project, il y a l'univers Star Guardians, il y a l'univers... Enfin, il y en a plein comme ça. Et chacun a son esthétique et pourrait être une série animée ou un jeu, à vrai dire, en lui-même. Il y a plusieurs groupes musicaux dans l'univers de League of Legends. Je pense que beaucoup de gens connaissent KDA, qui est le groupe de pop star, le girls band coréen-américain, qui est assez connu. Mais il y a aussi, comment il s'appelle, Mortal Reminder,
True Damage.
True Damage, c'est leur groupe de rappeurs, qui est un peu plus récent, mais il y a un groupe de metal, en fait, le tout premier.
Un Pentakill.
Pentakill, voilà, merci, Pentakill. Et avec ça, ils créent, en fait, à chaque world... pour la présentation de l'année, au début, il y a une grosse cinématique, et puis à chaque world, il y a un nouveau morceau musical. Souvent, c'est Imagine Dragons qui écrit le morceau, mais c'est des morceaux vraiment bons. Alors, c'est de la pop, hein, c'est pas le plus grand de l'inventivité, mais tu les écoutes, ça te met dans le mood. En plus, c'est des trucs qui te parlent de victoire et de combat et de difficultés, et de, tu vois, c'est genre le truc des worlds. Et ils mettent en scène les meilleurs joueurs de leur ligue, de leur championnat, dans des univers en les mélangeant aux personnages des jeux. Enfin, je m'éparpille un petit peu, mais c'est un ensemble de créativité qui est assez fou, et c'est un petit peu c'est le multivers entertainment qui est un petit peu en sous-marin et qui est en train d'exploser, je trouve. Et d'ailleurs, ils ont écrit une petite lettre ouverte récemment sur les nouvelles directions dans lesquelles ils veulent prendre la société. Je crois qu'ils veulent exploiter cet aspect à fond et qu'ils développent l'entertainment en général, parce que tout vient renourrir le jeu et l'amour qu'ont les joueurs pour le jeu. Parce que on te rappelle constamment que le jeu est cool et qu'il y a des univers cool et il y a des cinématiques, mais vraiment d'une qualité incroyable, pas d'une qualité technique, genre c'est les trucs, les meilleures cinématiques du monde, comme ce que fait Blizzard ou ce que faisait Blizzard, mais c'est d'une qualité narrative et ils osent prendre des risques d'une manière justement que Blizzard, auquel on les compare beaucoup, a raison parce qu'ils sont beaucoup inspirés de ce qu'a fait Blizzard, mais ils prennent des risques et ils osent faire des choses que Blizzard n'osait pas faire parce qu'ils étaient beaucoup trop conservateurs. Et
en fait, ce qui est impressionnant, moi, je trouve, dans le truc de Riot, c'est le fait que en fait, ils sont éparpillés dans plein de genres et de sous-genres différents. Et comme tu dis, ne serait-ce qu'en termes de jeux vidéo, maintenant, il y a un jeu musical, il y a un RPG, il y a un MOBA, il y a la version mobile, il y a un jeu de cartes, il y a TFT. Il y a vraiment plein de trucs. C'est devenu une espèce c'est un truc tentaculaire. Et en fait, chacun de ces produits deviennent des produits d'appel qui se répondent mutuellement. Et en fait, regarder Arcane, ça offrait des skins. Regarder les Worlds, ça offrait des skins dans un autre jeu. Enfin bref. Tout se renvoie, tout te pousse à aller vers un autre produit. Et c'est assez impressionnant. Hein. Bon, après, c'est peut-être un peu étouffant pour certains joueurs, mais clairement, il y a un business model qui est ultra impressionnant, je trouve. Et ils ont vraiment réussi à adapter ça à leur public, quoi, je trouve.
Complètement. Mais je crois que quand on le décrit comme ça, certains auditeurs vont se dire « Ah bah oui, ils font plein de trucs dans plein de domaines différents. » C'est du marketing classique. Et d'une certaine manière, oui, c'est classique, mais je suis en train de mettre sur le stream la vidéo de... Enfin, la cinématique des Worlds... la cinématique de 2020, d'il y a 2 ans. C'est pas juste du marketing, dans le sens où tu vas écouter tel groupe, ça va te rappeler à quel point le jeu est sympa quand tu fais tel et tel truc. La meilleure manière dont je peux le décrire, c'est que c'est du world building. Tout ce qu'ils font, c'est du world building. Même les groupes de musique, ça construit le monde et le lore de leur jeu, autour de leur jeu, ça dépasse leur jeu. Et c'est d'une richesse que je n'ai pas vraiment vue ailleurs. Et je suis surpris que ça m'ait pris aussi longtemps pour le découvrir, mais comme je le disais, il y a plein de communautés différentes, mais Riot, ils s'en foutent du marketing, en fait. Ils produisent leur propre marketing, mais ils ne vont pas aller faire de la pub. Ou... Et donc, ça reste un petit peu discret, un petit peu enfermé dans la communauté, parce qu'il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur. Et Riot, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu à ce stade. Ils se disent, bah, vous viendrez parce qu'il y a du bouche à oreille, parce qu'à un moment, vous entendrez notre groupe de musique, parce que vous irez voir Arkane, et vous serez aspiré dans notre univers. En tout cas, peut-être que je dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé, mais... C'est...
Non, je pense que c'est tout à fait ça, parce qu'en vrai, avant, il y a 2 ans, Riot, c'était uniquement League of Legends, et maintenant, c'est plus le cas, quoi. Maintenant, c'est plus le cas, bon, peut-être c'est Arkane, c'est d'autres jeux, c'est d'autres projets qui prennent de l'ampleur, hein. On va avoir un jeu de combat qui va arriver et tout ça, mais oui, c'est vraiment ça, c'est le fait que je pense que tu aies été atteint par l'univers, c'est logique, parce qu'il a commencé à s'ouvrir... Enfin, il a commencé à s'ouvrir aux joueurs qui n'étaient pas forcément des joueurs de MOBA à la base, que très récemment.
C'est vrai, mais je dirais aussi que ce qu'on voit dans les cinématiques et dans les clips musicaux et tout ça, ça va plus loin que ce qu'on a vu traditionnellement dans les c'est vraiment, comme je dirais, du storytelling et du world building. Tu vois la cinématique de la saison 2020. Tu en apprends sur les personnages. Le seul truc qui s'en approche un petit peu, c'est peut-être les cinématiques de Overwatch qu'on voyait, enfin que Blizzard sortait une fois de temps en temps. Mais sur toutes les cinématiques de Riot, il y a des trucs. Enfin, le personnage de Darius, par exemple, j'en tweetais il y a pas longtemps, qui est vraiment une caricature ridicule quand tu le vois en jeu. Quand tu vois les cinématiques liées à ce personnage, tu te prends à apprécier le personnage et la région dont il vient dans le jeu, de Noxus, de pourquoi ils sont comme ça. Enfin bref, c'est un travail sur lequel j'insiste là avec les auditeurs, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais joué avec la League of Legends, même si c'est l'un des plus gros jeux du monde, et qui connaissent pas cet univers. Et moi, j'ai été assez fasciné par la richesse de tout ça que je ne soupçonnais pas en dehors du jeu lui-même. Donc, je voulais le mentionner et peut-être qu'on fera un épisode spécial sur ça à un moment. Donc, voilà, je continue à jouer à Wild Rift et je suis, platine. Je suis assez content, je me maintiens en platine.
Félicitations.
Merci. T'as déjà joué à League of Legends ou pas?
Moi? Ouais. Ah, moi, j'ai beaucoup joué à LoL, hein. J'ai commencé en saison 3. Donc j'ai joué pendant presque 10 ans, même si je joue plus trop récemment. Et personnellement, moi, j'ai adoré Wild Rift comme toi. C'est un jeu qui m'a fait revenir dessus. Et je trouve vraiment qu'en termes de rythme, en termes de plaisir de jeu, j'en prends plus sur Wild Rift maintenant que sur League of Legends de base. Ouais. Je trouve vraiment que c'est une version incroyable.
On est d'accord. Elle est vraiment tellement plus accessible, tellement moins pénible quand il y a des trucs pénibles. Et y a une richesse dans la minutie du jeu qui est... Je comprends, en fait, maintenant, pourquoi, je ne vais pas repartir dans le débat Wild Rift, League of Legends et autres MOBA et Heroes of the Storm, que j'aime beaucoup Heroes of the Storm aussi, mais je comprends pourquoi certains joueurs disaient League of Legends, c'est une carte, et c'est dans la minutie de cette carte, c'est-à-dire qu'on arrive, ça ne va pas paraître attrayant pour certains joueurs, mais on en arrive... à devoir se souvenir des timings précis à la seconde près de quel moment tel ou tel truc va popper pour bien accomplir son rôle. Et il y a un vrai plaisir dans le fait de vraiment maîtriser le rôle qu'on va jouer dans le jeu et donc de connaître tous ces détails. Et d'une certaine manière, c'est un jeu pour lequel on peut progresser, pas uniquement... En fait, il y a 2 voies de progression. C'est... l'expertise technique, donc le fait de pouvoir accomplir techniquement les mouvements qu'on doit accomplir, mais aussi la connaissance du jeu avec ces histoires de timing, de comment gérer une vague, de bien la citer tout ce qu'il faut, de où être au bon moment, à quel moment, les décisions à prendre. Donc il y a cette profondeur qui est peut-être un petit peu moins présente dans les autres jeux du genre que j'apprécie bien. Bref, le reste des news... Le 3 n'aura pas lieu cette année, ou en tout cas, physiquement, il n'aura pas lieu. Mais quand ils ont annoncé ça, l'ESA, ils n'ont pas dit « et on aura un événement numérique ». Et on se souvient que l'année dernière, ça ne s'était pas super, super bien passé. Et comme un rapace, un merveilleux rapace. Jeff Keighley a annoncé, genre l'heure qui a suivi l'annonce de l'absence de l'E3, il a annoncé que le Summer of Games, lui, serait bien là. Et donc, il continue à essayer de prendre la place de l'E3 avec son label Summer of Games. L'année dernière, j'aurais dit, non mais l'E3, ils vont s'organiser, ils vont revenir, c'est pas possible. Et là, je trouve que l'Omicron doit avoir bon dos. Hein. Je ne suis pas convaincu que ce soit pour cette raison qu'ils doivent l'annuler, mais c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Je me demande si l'E3, là, pourra se relever au final. Parce que l'année dernière, je me disais, ouais, mais en fait, on a besoin d'un truc en physique, parce que c'est quand même pas la même chose pour les journalistes quand ils peuvent voir les jeux, etc. S'ils annulent aussi cette année, j'ai l'impression que vraiment, mais personne n'a envie de payer 14 millions de dollars pour avoir un stand à l'E3. Jeff Keighley, il pourra bien faire la soirée des Summer of Games où les gens viendront avec une LAN, tu vois, chacun met son ordinateur et tu peux mettre une démo de ton jeu. Est-ce que tu penses que l'E3, c'est fini, on n'en verra plus jamais? Ou
eh ben,
c'est une pause?
Eh ben... Écoute, moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné quand j'ai vu cette annonce-là. J'avais l'impression qu'on nous annonçait que c'était le faire-part de décès de l'E3. Mais à la limite, ce qui m'a le plus... ce qui m'a le plus marqué, c'est les réactions face à cette annonce-là. C'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup de journalistes dire... En fait, on s'en fout si le 3 est annulé. Ça nous coûte cher d'aller sur place, alors qu'en fait, on se rend compte que, à distance, si c'est pour suivre les. Alors, c'est sûr que t'as pas la même adrénaline, mais moi, j'avais l'impression que les réactions, en tout cas des journalistes en France,
c'est
c'était.
Genre, ouf.
Ouais, c'est ça. So what? Ouf, on aura plus à se taper des heures de vol, à être crevé là-bas, à courir partout. On pourra tout faire très tranquillement de chez nous et au final traiter l'information d'une façon un peu plus confortable, on va dire. Donc voilà, je pense
En plus, l'année dernière, beaucoup de sociétés avaient utilisé le streaming pour faire tester leurs jeux. Donc peut-être que cette technologie peut pallier un peu au fait qu'on ne peut pas avoir les hands-on sur le salon. Bon, après, il y a le networking, parce que l'E3, c'est aussi un salon où les gens trouvent des éditeurs, découvrent des jeux comme ça en allant dans les salons ou les présentent à des gens qu'ils n'auraient peut-être pas forcément écoutés autrement. Aubin, toi, tu y étais déjà allé à l'E3 dans le cadre du boulot ou pas?
Moi, je l'ai fait une fois. Je ne l'ai pas fait en tant que journaliste. J'étais monteur vidéo à l'époque. Donc, je ne peux pas vraiment parler en termes de rendez-vous ou quoi. Après, ce qui est certain, c'est que moi, de ce que je voyais de mes collègues, c'est qu'ils étaient claqués. C'est que ça avait l'air vraiment d'être rendez-vous sur rendez-vous. Et surtout que parfois, ce n'était pas évident de déterminer si un jeu valait le coup ou pas. Et donc, voilà, il fallait faire des choix. Et parfois, ce n'était pas toujours évident. Je pense que c'était beaucoup de stress. Je pense aussi que pour beaucoup, c'est du prestige. C'est être à l'E3, certains ont le sentiment que c'est fabuleux, c'est le Cannes, quoi. Que t'es au milieu de quelque chose de gigantesque, en fait. Et quelque part, ça c'est beau, c'est magique, mais honnêtement, moi, d'un point de vue...
Est-ce que je t'ai perturbé ta vidéo dans ma vidéo et
un petit peu l'inception m'a perturbé.
J'ai senti un peu... oui, c'était l'infinite feedback loop. Pardon.
Mais ouais, du coup, moi, je pense que d'un point de vue pur joueur, je préfère carrément, quoi. Je préfère carrément qu'il n'y ait plus de 3. Enfin, le 3 tel qu'on le connaît, parce que je trouve que les conférences étaient diablement longues. Je trouve que... Moi, les interviews de gens...
On les aura quand même. Hein. Ça
oui, on les a, mais je trouve qu'elles ont gagné en fluidité de par le fait qu'il n'y a plus de public, de par le fait que là, maintenant, il y a une bonne partie qui est préenregistrée et tout ça. Moi, honnêtement, le côté « waouh, il y a de la foule » et tout, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, même pour les conférences, je pense que c'est plus agréable à suivre. Après... Évidemment, il y a une part de nostalgie, je pense aussi, hein, de se dire que ça ne sera plus pareil et qu'il y a beaucoup aussi de journalistes. Moi, je sais que Panta, par exemple, ça lui faisait vraiment mal au cœur de se dire que ça n'existerait plus comme avant. Mais honnêtement, moi, d'un point de vue des informations, ça ne va rien changer. Après, ouais, effectivement, d'un point de vue de l'industrie et des développeurs et du relationnel, je pense que tu as tout à fait raison. Se faire un carnet d'adresses sur place, ça doit être beaucoup plus simple. Aller chercher un financement sur le parking de chez Devolver, c'est plus simple que, ouais, que de devoir ouais, trier des boîtes de mail, quoi.
C'est pour ça que je dis peut-être que Killy fera sa soirée d'ouverture ou sa journée d'ouverture. C'est tout à fait possible de faire un truc pour remplacer ça, quoi. Comme on dit dans la chatroom, le PSVR 2 sans tester le casque, c'est pas pareil, c'est sûr, mais ils peuvent avoir Sony va envoyer des gens dans les pays principaux avec des casques pour faire tester, quoi. Ça, je pense qu'il est possible de pallier à ça aussi. Vous avez vu ce développeur, le développeur de Days Gone qui s'est mis à gueuler sur Sony, parce que c'est Jeff Ross, voilà, c'était le directeur du jeu. Ce qui s'est passé, c'est que Sony a annoncé, on a vendu 8 millions de Ghost of Tsushima, super top, ouah, génial, bravo. Et là, Jeff Ross, ancien directeur de Days Gone, qui n'a pas connu le succès qu'espérait Sony et qui donc n'aura pas de suite, s'est mis à critiquer sur Twitter et ailleurs Sony en disant bah, « Nous aussi, on a vendu 8 millions à ce que j'avais vu. » Alors, il n'a pas les sources directes, mais visiblement, c'est relativement fiable. Et du coup, ça a amené plein de gens à se questionner sur, d'une part, les raisons pour lesquelles Days Gone a été maltraité par Sony alors que Ghost of Tsushima est encensé. Et d'autre part, se poser des questions un peu sur Jeff Ross, qui est l'avatar de l'aigritude, il semble. Moi, je trouve que ce n'est pas un très bon look, mais il y avait d'ailleurs un papier très intéressant, là encore, sur Gamekult, sur les raisons pour lesquelles, en fait, 8 millions pour Ghost of Tsushima et 8 millions pour Days Gone, bah, c'est pas forcément la même chose. Les raisons principales, je vais vous faire ça en gros. Les raisons principales, c'est que le budget n'est pas forcément le même. On n'a pas les détails, mais c'est sans doute un truc qui est à prendre en compte. Et d'autre part, les prix de vente ne sont pas les mêmes au cours du temps. Days Gone est allé en promo à des prix bien plus bas, beaucoup plus vite, alors que Ghost of Tsushima s'est vendu beaucoup plus cher, beaucoup plus longtemps, et il se vend encore a priori. Donc, il a même augmenté son prix avec la Director's Cut, Ghost of Tsushima, là où Days Gone, bah, évidemment, a chuté très vite. Et il faut noter aussi un truc qui n'a pas du tout été dit dans ces conversations, c'est que Sony n'a pas démantelé Bend Studios. Ils n'ont pas dit aux développeurs « Bon, allez, c'est bon, on ne veut plus de vous. » Ils leur ont dit « Écoutez, les gars, Days Gone, la franchise n'a pas super bien marché. Enfin, elle ne s'est peut-être pas trop mal vendue, elle a des fans, mais elle n'a pas été hyper bien reviewée, etc. Donc, prenez tout ce que vous avez appris et faites un autre jeu. C'est juste que vous n'allez pas faire Days Gone 2, mais vous allez faire autre chose qui aura peut-être un petit peu plus de chance d'être un truc plus frais. » Et du coup, Jeff Ross, qui vient pleurnicher sur Twitter, ah, je caricature, ça trouve, il a de très bonnes raisons de se sentir maltraité, mais j'ai trouvé ça assez malvenu. Enfin, pas malvenu, mais c'est pas très élégant, quoi, on va dire. Ça me paraît un peu moyen.
Oui, ça donne pas une image très sympathique du personnage, je trouve, ouais, aussi.
Personnellement, je préfère ça que des langues de bois, hein, mais je suis d'accord que faut éviter de mordre la main qui nourrit, quoi, ou de cracher dans la soupe. C'est pas un truc
sur le fond, il a raison, quoi. Mais comme tu dis, c'est plus la forme
Sur le fond, il a raison, oui et non. Lui, il dit, ah ben 8 millions, c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. Ça dépend combien tu as vendu ton jeu à 8 millions. Si tu vends 8 millions de Days Gone en moyenne à 30 euros, c'est pas la même chose que 8 millions de Ghost of Tsushima en moyenne à 50.
C'est sûr.
Tu vois, et en plus, encore une fois, il y a la question du budget. Il était assez ambitieux, Days Gone. Et en plus, il y a le fait que bah, Ghost of Tsushima, c'est quand même un jeu qui a une identité très, très forte. Days Gone, les réactions, rien que sur l'identité et le style du jeu, c'était « Ah, encore un truc de zombie ?» Ok, et donc on a une moto et on est Deacon, comment il s'appelait, Deacon machin, qui est vraiment pas content et qui tue les zombies avec son flingue. Avant la sortie, moi j'ai bien aimé Days Gone, mais je comprends que au niveau de l'image, bah il se démarque pas beaucoup. Enfin, c'était pas une grosse réussite, quoi. Mais bon, bref, Jeff Ross c'est pas content. C'est pas très élégant. Je veux dire, et à un moment, si tu fais, et oui, non à la langue de bois, tout à fait. Mais là, c'est pas une question de pas de langue de bois, c'est une question de... et en plus, moi aussi, j'en ai vendu 8 millions et Sony, ils ont même pas voulu me renouveler mon jeu.
Tu vois, je trouve grognon.
Ouais, je trouve grognon. Rainbow Six Siege Extraction sera sur Game Pass au lancement. Et le lancement, c'est quand ? C'est dans une semaine ? Rainbow Six Siege, que je dise pas de bêtises. Non, pas Siege, Rainbow Six Extraction. Ouais. Je crois que c'est dans une semaine. Et je crois qu'on va être agréablement surpris par le jeu. Et il sera sur le Game Pass. Donc, c'est intéressant de noter que c'est encore un jeu multi qui doit se reposer sur sa popularité qui est intégrée au Game Pass. Donc, c'est un petit peu le moyen garanti de te faire une base de joueurs qui est au moins correcte et pour voir si le jeu prend ou pas. Et donc, si vous pensez que... c'est un peu le début de... February Apocalypse. Le February Apocalypse, qui est l'avalanche de jeux. Et je me dis que Rainbow Six Extraction, dans le February Apocalypse, il a bien besoin d'être dans le Game Pass, parce que sinon, tout le monde va l'oublier dès la semaine suivante, quoi, avec tous les jeux qui arrivent. Donc...
Un peu comme Windjammers 2 qui sort dans une semaine et qu'il faut absolument acheter parce que ça va être fantastique.
Windjammers 2 sort dans une semaine ? Mais je sais, mais c'est vraiment...
Je fais mon lobbying.
Ouais, Windjammers 2 qui est un projet totalement improbable. Enfin, qui a été... C'est Dotemu qui développe, non ?
C'est ça, oui. Et d'ailleurs, ils ont sorti récemment un documentaire d'une demi-heure sur le développement du jeu, qui est absolument passionnant, où tu vois qu'en fait, ils ont fait énormément de rétro-engineering, qu'ils ont été voir les devs du premier épisode. Enfin bref, ça sent le projet passion et j'ai tellement hâte.
Très bien, tu nous en reparleras à un moment.
Alors moi, je connais que deux noms. C'est un Pong version volleyball, c'est ça ?
Ah, pas du tout.
Version frisbee.
Frisbee, pardon.
Avec des mécaniques de jeu de combat, mais c'est l'idée.
C'est ça. C'est un mélange entre Pong frisbee modernisé avec des mécaniques de jeu de combat. C'est très particulier et c'est le genre de jeu un petit peu culte, quoi. C'est pas le jeu le plus connu, mais et du coup, le fait qu'il y en ait un deuxième qui arrive, parce que c'est un jeu qui date des années 80, quoi, 90. Donc. Et je ne l'ai pas précisé, mais Rainbow Six Extraction, c'est un petit peu le pendant co-op de Siege, qui est un jeu PVP. Et il y a des mécaniques vraiment intéressantes dans Extraction. Il y a des trucs vraiment originaux. Je ne sais plus à quel jeu je pensais qui n'a pas justement réussi son coup en faisant un énième jeu service qui est sorti il n'y a pas longtemps. On verra ce que ça donne sur Extraction. Et donc, il sera sur le Game Pass. On nous dit dans la chatroom, sur le Game Pass aussi, Windjammers 2 ?
Tout à fait. Sur le Game Pass, Day One.
Eh ben,
ils sont forts.
Ils sont trop forts. Allez, quelques rumeurs rapidement. Jedi Fallen Order 2 serait annoncé avant le 3. Bon, il n'y aura pas de 3, donc peut-être qu'il ne sera jamais annoncé. Mais c'est Jeff Grubb qui le dit, donc c'est plutôt fiable. Mario Kart 9 serait en développement. Incroyable, mais il y aurait un nouveau twist. Alors, je vous invite à imaginer ce que serait le nouveau twist de gameplay de Mario Kart 9. GoldenEye 007 pourrait arriver sur Xbox. On a eu des petits achievements qui ont été leakés. Ça pourrait enfin se faire. Il y a beaucoup de gens qui sont fans du truc. Et on pourrait avoir cette année le remake PS5 de The Last of Us 1. Ça, il est possible que j'y repasse quelques temps. Et PlayStation est en train d'arrêter de vendre des cartes cadeaux PS Now, donc le service d'abonnement et de streaming. Et eux, ils disent, c'est pour unifier nos offres. Et donc, il y a des cartes cadeaux PlayStation qu'on peut utiliser pour le PS Now. Ça sent quand même la refonte du service avec l'arrivée du PlayStation Plus Now combiné à 3 étages qui pourrait être annoncé bientôt. Pas mal de rumeurs là-dedans. Il y a quelque chose qui vous intéresse dans tout ce que je viens de dire ?
Mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses. Mais Mario Kart, c'est pas une surprise. Jedi Fallen Order. En fait, je suis surpris par rien du tout. Mais globalement, beaucoup de choses m'intéressent. Mais le PS, je pense que le plus intéressant d'un point de vue de l'industrie, c'est le Game Pass PlayStation. Non, mine de rien, très 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 curieux de voir si ça va vraiment se faire.
Là, c'est vraiment un indice, un petit indice de plus, l'arrêt de la vente des cartes PlayStation Now. Mais oui, ça serait intéressant. Pardon, Eska ?
Mais non, mais je rejoins complètement Aubin, tout pareil que lui.
On est d'accord et on pourra en parler quand on aura un petit peu plus d'infos là-dessus.
Moi, je pense que le new twist de Mario Kart 9, c'est qu'ils vont mettre un nouveau véhicule et que ce sera une trottinette.
Ah, trottinette électrique. Tous les véhicules tous les véhicules seront électriques pour être un petit peu plus environmentally conscious. Et donc, on pourra ajouter des bruits de moteur comme customisation. Et ces bruits de moteur seront des NFT vendus.
Oh là, non, non. Non, je passe un bon moment jusque-là et...
Attends, on va y revenir aux NFT dans un instant.
Je sais.
Quelques updates. Lost Ark, c'est un jeu coréen, un MMO, on va dire c'est un Diablo MMO, qui devrait arriver, c'est quand ? C'est le 11 février. Alors, je ne vais pas vous refaire le jingle, mais vous savez à quoi je fais référence. Le 11 février, et Lost Ark, c'est vraiment un truc qui a l'air assez intéressant. C'est un Diablo en MMO qui est très populaire en Corée. Et qui a l'air très très beau. Donc moi j'attends de voir ce que ça donne. La vidéo de présentation est plutôt cool. D'autres jeux qui ont des updates, Naraka Blade Point, un nouveau héros, Wu Chen. Ça aussi c'est un jeu sur lequel je suis très curieux. Il faudra que je le teste. Genshin Impact, c'était le jeu dont le subreddit était le plus populaire en 2021. Là encore, un jeu qui est un petit peu passé sous le radar, mais qui continue à être hyper populaire. Et le chiffre de la semaine, c'est les 500 heures qu'il faudra pour finir Dying Light, qui nous a bien fait rire. Le CM de Dying Light a cru bon d'aller dire sur Twitter « Il faudra 500 heures pour terminer le jeu ». Évidemment, il voulait dire 500 heures pour tout faire, tout ce qui est disponible dans le jeu. Le jeu en lui-même, la campagne, c'est 20 heures. Pour finir toutes les side quests, c'est 100 heures. Et j'ai trouvé très drôle la réponse qu'a fait Shadow Warrior 3. Ça a donné lieu à plein de mimes, à plein de mèmes. Mais Shadow Warrior 3 a tweeté à la suite de ça « Il faudra 500 heures pour finir Shadow Warrior 3 60 fois ». Donc, mais c'est marrant, je veux dire, quel CM se dit, c'est un argument pour le jeu, de se dire il va falloir 500 heures pour le finir.
Moi, justement, j'ai été relativement agréablement surpris.
Ah oui?
que tout le monde soit moqué de ça, quoi. Parce que, je trouve que ça revient tellement souvent, où c'est comme les gros graphismes ou plein de choses, au final, plein de trucs qui sont finalement assez stériles, où on s'en moque, parce que, encore une fois, là, je vais reparler de Zelda, mais c'est un des plus grands jeux de ces dernières années, et techniquement, c'est pas très intéressant, c'est pas la folie, quoi. Mais je trouve que c'est des valeurs comme ça sont ultra faciles à identifier, et du coup, ça m'étonne pas que ça suffise à séduire plein de gens, et ça a marché pendant très longtemps. Donc ça m'étonne vraiment que ça ait un peu backlash, mais moi, ça m'a fait rire aussi, j'avoue.
Ouais. Je me demande si c'est pas justement des gens comme nous qui sont peut-être qui sont à trentaine, quarantaine, qui se souviennent de l'époque où c'était un argument de vente, mais ça fait 20 ans que c'est plus un argument de vente, la durée d'un jeu, j'ai l'impression.
Ouais.
Peut-être que... Bon. Et puis, les NFT, comme je le disais, il y en a de partout. Si on pensait que ça allait pas continuer, Square Enix a annoncé, le président Matsuda a annoncé que le futur des jeux vidéo, c'était la blockchain, les NFT. Il a aussi parlé de Metaverse, il a mis tous les buzzwords de l'histoire dans sa lettre aux investisseurs, sa lettre ouverte. Konami vend des NFT pour célébrer le 35e anniversaire de Castlevania. Je suis allé faire un petit tour sur la place de vente. Les NFT, il y en a genre une quinzaine. Ils sont à genre 100 euros, 500, 1000 dollars, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas la... Généralement, ça augmente à la fin, les mises aux enchères, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont faire beaucoup d'argent avec ça. Sega a également annoncé des NFT, mais genre, ouais, mais si jamais ça fait ça vous plaît pas, on reconsidérera. GameStop est en train d'acheter, d'engager des dizaines de personnes pour faire du NFT. Enfin bref, il y a du NFT d'un peu partout et je ne vais pas repartir sur ma diatribe anti-NFT dans les jeux vidéo. Le NFT est une technologie intéressante, je pense, en soi, et il faut voir ce que ça pourrait donner. Dans le jeu vidéo, ma conclusion, c'est que je n'y vois pas d'intérêt pour le jeu lui-même. Et il y a un très beau papier sur Axie Infinity de Paul Butler, que je mettrai dans la newsletter que j'envoie tous les vendredis, qui examine les conséquences du play to earn sur l'économie du jeu vidéo. Et en gros, vous vous souvenez des farmers chinois sur World of Warcraft au début, dans les premières années du jeu. Bah, c'est un peu ça. Ça institutionnalise le fait de farmer dans les jeux vidéo. Et enfin bref, bon, je ne vais pas repartir sur tout ça, mais avec tout ça et tous les gens qui essayent de le défendre et de m'expliquer, etc., je ne comprends toujours pas à quoi ça sert dans le jeu vidéo, les NFT. Donc, bon.
Ça sert à une poignée de personnes qui veulent faire de la spéculation financière au détriment de gens qui ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne et qui vont très certainement perdre beaucoup d'argent.
Tu sais, je ne suis même pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter des NFT. Dans les joueurs, c'est...
Ah oui.
Enfin bon, bref, moi je pense que dans le jeu vidéo, les NFT ne fonctionneront pas, mais surtout, encore plus que ça, la question c'est qu'est-ce que ça amène ? Et personne n'a réussi à expliquer... Bon, bref, à chaque fois c'est... Mais tu te rends pas compte, là, au lieu d'avoir un truc en jeu, bah, tu le possèdes, tu peux en faire ce que tu veux. Et les gens vont pas plus loin, et... Bref, si vous voulez les transformer chaque jeu vidéo en... farming de gold dans World of Warcraft, mais de manière officielle et légale, c'est le résultat que ça va avoir. Bref, le mot de la fin, qu'est-ce que je voulais ajouter ? Bon, les gens commencent à se faire bannir de Twitch parce qu'ils streament des dessins animés et des épisodes télé. Genre, il y a eu une vague de bannissement pour la musique il y a genre 6 mois, et maintenant, il y a des gros streamers qui se mettent à streamer des animés, je comprends.
Bon bah, je comprends pas pourquoi maintenant ils se disent que c'est une bonne idée.
Ouais, mais alors c'est sympa évidemment de regarder un anime cool avec ton audience, mais t'as pas... Bref.
Ah oui.
La Chine n'a toujours pas recommencé à approuver des jeux vidéo depuis juillet. Je me demande si ça va avoir des conséquences sur la manière dont se passent les choses dans le jeu vidéo en général. Riot, on parlait d'eux tout à l'heure, ils ont trouvé un accord avec les avocats des employés ES qui avaient engagé une action en justice après le scandale de 2018, un accord pour payer 100 millions de dollars aux employés ES. Tout le monde a l'air satisfait de cet accord et j'ai été, moi, assez content de voir que dans la lettre ouverte du président Niccolo de Riot, qu'il a publié il y a quelques jours, il passe un bon paragraphe, quelques paragraphes à parler de ce problème dans leur plan pour l'avenir. Dans l'ensemble, ça continue cette impression que j'avais que bah, ils font les choses qu'il faut par rapport à ce problème et qu'ils les ont approchés de la bonne manière. Donc j'espère que ça continuera. Et je suis très curieux de voir à côté de ça ce qu'ils vont faire avec cette nouvelle direction, parce que c'est pas très clair. Hein. Niccolo, il parle beaucoup dans cette lettre. Il dit on va essayer de faire plein de choses dans plein de domaines, et c'est pas très précis. Évidemment, il va pas dévoiler tous ses plans, mais je suis très curieux de voir de quelle manière ils vont étendre ce qu'ils ont réussi ces dernières années dans les différents domaines. Je me demande si Riot Games ne va pas devenir Riot Entertainment, tu vois, à un moment, parce qu'ils explorent plein de choses. Et entre parenthèses, même si je trouve pas ça précis, ils disent aux employés, si la nouvelle direction vous plaît pas, vous pouvez quitter la société et on vous paye votre... Ils ont un système pour payer les gens qui veulent partir de la boîte au bout de quelques mois si c'est pas ce qui leur plaît. Et ils étendent le système. Enfin bref, ils ont l'air de faire les choses correctement. Par contre, un truc un petit peu décevant, et je vous laisserai la parole après sur tout ça, Phil Spencer, on a l'impression, a fait un petit peu marche arrière sur ce qu'il avait dit par rapport à Activision. Ils avaient dit « oui, tout ça est inacceptable et donc on va réévaluer la manière dont on fait les choses avec Activision ». Et bien finalement, il a dit dans une interview à Kara Swisher, je crois, « on a changé la manière dont on fait certaines choses avec Activision, mais ce n'est pas notre boulot de donner la leçon aux sociétés de l'industrie, machin ». Donc, alors évidemment, je pense que ce n'est pas forcément leur rôle de devenir juge de l'industrie. Mais par rapport au mouvement qu'il y avait eu au moment des scandales, comme on en parlait sur le Discord de l'émission, ça a l'air d'avoir été un coup de pression médiatique de la part de Sony, Microsoft et Nintendo qui n'a pas donné de résultats concrets, parce que Activision a toujours Bobby Kotick à sa tête. C'est un petit peu le Kotick Watch. Et oui, Bobby Kotick est toujours président d'Activision Blizzard King. Et comme ça n'a pas marché, bah, faut continuer à travailler avec Activision. T'as pas le choix. Et donc, il fait un petit peu genre, oui, ok, mais bon. C'était pas, on a changé certaines choses, genre on dit plus cordialement à la fin des mails quand même, tu vois, c'est sérieux. Bon, quelque chose à dire là-dessus avant qu'on conclue?
Non, j'avoue que j'ai pas suffisamment suivi les développements autour des prises de parole de ces compagnies.
Eh ben écoute, non, oui, vas-y, Aïska.
Non, rien de plus à dire non plus. Même chose que toi par rapport à Riot, wait and see.
Ouais. Alors, pour conclure, deux choses. Il y a un YouTuber, une personne qui a montré sur YouTube un mode imprimé en 3D pour contrôler une manette PS5 à une main. Et ça m'a donné l'occasion de découvrir ces modes. Il y a un système de morceaux de plastique à ajouter à la manette. Qu'on peut imprimer en 3D très simplement, et n'importe qui peut le faire avec une imprimante 3D, et ça permet de contrôler vraiment tous les boutons de la manette avec une seule main. Donc c'est très bien pour l'accessibilité, ou juste si vous êtes paresseux. Mais c'est vraiment intéressant, et ça m'a donné l'occasion de découvrir que c'est tout un pan du domaine de l'impression 3D qui fait ça pour différents types de manettes. C'est très très cool. Et puis l'autre truc que je voulais évoquer, c'est une intelligence artificielle, enfin un réseau de deep learning qui sert enfin à quelque chose. Ils ont obligé l'intelligence artificielle à regarder des Pokémon, et ils en ont, enfin des milliers de des centaines de Pokémon, et à en créer des nouveaux. Et alors, c'est entre, le résultat, c'est entre, carrément, et évidemment, c'est genre la vision de cauchemar, mais j'ai trouvé ça assez drôle, quoi. Il y en a qui sont vraiment, en fait, pour créer des Pokémon, t'as juste besoin d'un réseau neuronal et de deep learning. Et il y en a qui sont vraiment convaincants, quoi.
Ouais, c'est quand même assez ouf, hein, ce qu'on arrive à faire avec cet outil-là.
Aujourd'hui. De nos jours.
Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'en plus, les poses, c'est pas seulement le design, c'est que genre la manière dont ils sont placés et comment ils pourraient être animés, elles sont bien, quoi.
Et franchement, il y en a beaucoup, tu dis, oui, ça c'est Boultamuche, le Pokémon bien connu.
bien joué, Patrick.
Ouais, mais franchement, respect.
Je pense qu'ils ont l'IA pour faire le visuel, ils vont t'embaucher pour les noms, c'est certain.
Parfait. Bon, écoutez, un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous êtes patriote, vous pouvez rester avec nous dans l'épisode pour avoir la discussion sur Shin Megami Tensei. J'espère que Thomas sera de la partie. Et puis, si vous n'êtes pas, on se retrouve dans une semaine. Mais avant ça, on va quand même dire au revoir à Escarina. Comment ça va, Esca? Non, pas comment ça va, mais merci d'avoir été avec nous. J'espère que tu pourras partir en vacances. Où peut-on te retrouver sur Internet?
Eh bien, on peut me retrouver sur Twitter, @escarina_, ici tous les deuxièmes jeudis du mois, et de temps en temps, de façon très partielle, entre deux autotests et PCR et antigénique, chez Supergamerside et KissMyGeek.
Magnifique. Aubin, on va te laisser retourner à ton stream. Où te retrouve-t-on, je vais y arriver, sur Twitch notamment?
Sur Twitch, ouais, sur twitch.tv/obi_, et sur YouTube, ma chaîne YouTube s'appelle Aubin, où on parle un peu de jeux vidéo, principalement de jeux vidéo et parfois d'autres choses, mais principalement de jeux vidéo.
Très bien, très bien.
Vous êtes les bienvenus.
Et Obi, il faut passer un moment quand même pour expliquer, c'est Obi_.
Voilà.
Deux i, c'était pas suffisamment compliqué, il fallait le underscore en plus.
Non, mais Twitch, j'ai essayé d'autres manières de l'écrire, mais malheureusement, Twitch n'a pas voulu.
On ne critique pas les pseudos avec un underscore, enfin.
Loin de moi cette idée, évidemment, c'était plein d'amour. Pour ma part, c'est NotPatrick sur tous les réseaux, hein, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube un petit peu, c'est plus très actif, mais il y a la chaîne de replay qui est NotPatrick Podcast, et puis sur Twitch, on est aussi NotPatrick, et on est là tous les mardis avec le rendez-vous tech et les jeudis avec le rendez-vous jeu à midi pile. Et si vous voulez plus de ce que je fais, c'est sur notepatrick.com, vous retrouverez toutes mes activités, tous les liens vers tous mes podcasts et le reste, et patreon.com/rdvjeu bien sûr pour soutenir l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.